Petit peu de retard parce qu'il y a eu un service lent au restaurant. Donc, sur les concepts du trauma, les définitions, les concepts, les hypothèses qui vont aboutir, toutes ces interventions, donc les intervenants vont se retrouver dans la table ronde de cet après-midi pour poser la question: est-ce qu'il y a une vision commune du psychotraumatisme? Donc, nous allons entendre cet après-midi Michel Chitekat et ensuite Laurence Carluère. Et ensuite, nous aurons la pause. Ensuite, nous aurons la table ronde. Alors, Michel Chitekat est psychiatre, psychothérapeute, formateur en Somatic Experiencing, qui est cette méthode développée par Peter Levine et dont il a traduit le livre Waking the Tiger, donc Réveiller le tigre, qui est bien arrivé à la librairie finalement, Michel ?
On n'a pas vu.
Ah, vous ne l'avez pas vu ? Bon. Il vient de sortir, hein, c'est ça ? En tout cas, c'est un livre très intéressant justement pour expliquer comment fonctionne cette méthode ou approche, je ne sais pas comment il faut dire. Michel Chitekat va nous parler plus spécifiquement de la théorie polyvagale des émotions de Stéphane Porges et qui permet de comprendre comment se fait la résolution du traumatisme psychique, mais plutôt sous l'angle sensorimoteur, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est une théorie peu connue. Donc, je suis très curieuse de vous entendre nous parler de ça. Alors, je vais vous présenter. C'est peut-être le vin de ce midi qui me fait... vous êtes... Est-ce que j'ai dit que vous étiez médecin psychiatre ? Je l'ai dit. C'est pire que je ne pensais. C'est pas de la dissociation, je vous assure, je pense pas. Enfin, à moins que l'alcool ne crée un processus de dissociation, ce qui est possible. Donc, vous avez publié de nombreux articles scientifiques sur le système adrénergique dans la dépression et l'anxiété. Vous êtes praticien formateur dans cette méthode dont je viens de parler. Et voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Vous avez été praticien hospitalier, médico-légal, carcéral et privé, et vous êtes aujourd'hui praticien, clinicien de cette approche du somatic experiencing. Voilà, à vous.
Donc je vous remercie de m'avoir invité à ce colloque, ainsi que la FF2P. Donc ça me donne l'occasion de présenter la Somatic Experiencing, qui a donc été créée par le psychologue et éthologue américain Peter Levine. Alors, j'essaye depuis quelques années d'introduire ces concepts et cette méthode dans le monde francophone, car je pense qu'ils constituent une réelle avancée. Et ils sont relativement méconnus dans le monde francophone. À ma connaissance, il y a peut-être une cinquantaine de praticiens formés à la Somatic Experiencing francophone, alors qu'il y en a bien sûr des milliers aux États-Unis, mais il y en a plus d'un millier en Allemagne, des centaines en Suisse, au Danemark, etc. Et donc il semble que le monde francophone soit un petit peu résistant à admettre ces concepts ou à les introduire dans sa pratique. Et donc c'est cet effort que j'essaye de faire. Et comme l'ont souligné certains intervenants ce matin, cette méconnaissance est un grand paradoxe, parce que Peter Levine se réclame clairement de Pierre Janet dans l'élaboration de sa méthode. Et quand vous googlez Pierre Janet, vous allez tomber sur plein d'articles extrêmement récents de thérapeutes américains qui reprennent les théories de Pierre Janet et qui l'adaptent au monde actuel. Et ce n'est pas étonnant, puisque le concept de base de la somatic experiencing est que c'est le mécanisme de figement ou de sidération, dont la dissociation n'est qu'un des aspects, et Pierre Janet avait été attentif à cet aspect, est vraiment le cœur de la compréhension et du traitement du traumatisme. Et donc, j'ai entendu ce matin beaucoup parler de la mort. Effectivement, l'homme est étranger à la mort, il ne sait pas ce que c'est, mais le figement, il sait extrêmement bien ce que c'est. Et donc, il y a là une confusion très importante et que je voudrais déjà souligner, c'est que l'être humain n'est pas traumatisé par la mort, qu'il ne connaît pas et qui n'est qu'une idée, mais par le figement, qui est un état physiologique que là, il connaît très bien et qu'il confond d'ailleurs avec la mort, même dans son vocabulaire, puisqu'il dit qu'un animal fait le mort. Un animal qui fait le mort n'est pas du tout mort, il est dans une forme extrême de survie. Et donc, déjà, cette confusion est extrêmement importante à souligner. Et donc pour Peter Levine, ce n'est pas ce qui m'est arrivé qui est à l'origine de mes symptômes, c'est la réaction de figement. Ce qui est en soi une bonne nouvelle, parce que si c'était ce qui était arrivé qui était la cause de vos problèmes, vous êtes foutus, hein, puisque ce qui est arrivé, vous ne le changerez pas. Mais si c'est la réaction de figement qui est l'origine de vos symptômes, celle-là, vous pouvez la changer relativement facilement. Si vous comprenez quels sont les mécanismes du figement, ce qui fait entrer dans le figement, ce qui le perpétue et ce qui en fait sortir. Donc la somatic experiencing et la théorie de Porge, ce qui est apparu ultérieurement, donc Peter Levine est un éthologue, physiologue, Porge c'est un cardiologue qui étudie les modèles de contrôle neuronal du système cardiaque chez les nouveau-nés, donc vous voyez que ce sont des gens qui viennent d'origines très différentes, mais la théorie de Porge est venue quelque part conforter les idées les premières idées de Peter Levine. Qu'il avait plutôt développé de manière expérimentale. Et donc, d'une part, la somatic experiencing et la théorie de Porge valident ce modèle qui tourne autour du figement comme cœur du traumatisme, mais d'autre part, ils apportent des outils thérapeutiques extrêmement simples et efficaces de résolution du traumatisme. La connaissance de la physiologie du système d'entrée et de sortie du figement physiologique permet de travailler directement sur cette physiologie et donc de sortir les gens du traumatisme. Un exemple très classique, c'est que si vous chiffonnez votre visage, hein, si vous faites des grimaces, mécaniquement vous sortez un peu du figement, hein, parce que, pour des raisons que j'expliquerai, le système d'engagement social est lié aux muscles du visage. Donc dans le temps relativement bref qui m'est imparti, je me focaliserai sur la présentation des aspects neurophysiologiques de ce modèle, présentation qui est bien entendu adaptée de manière simplifiée, voire caricaturale à la psychothérapie. Donc je suis un agrégé de psychiatrie et j'ai fait des recherches fondamentales sur le système noradrénergique. Donc l'idée de ne pas vous assommer de notions qui probablement n'ont pas d'intérêt pour vous, mais de voir ce qu'on peut extraire de ces théories, sous forme de schémas qui sont d'ailleurs plus des métaphores que des réalités physiologiques, de telle manière que vous puissiez les appliquer rapidement dans vos pratiques. Et je voudrais souligner que le modèle de la somatique est bien plus vaste que ce modèle neurophysiologique. Donc, comme je l'évoque dans l'avant-propos que j'ai écrit pour le livre de Peter Levine, Waking the Tiger, qui vient d'être réédité par Duno et que vous pouvez peut-être trouver en librairie, donc je dis un être humain, bien entendu, beaucoup plus qu'un système nerveux, et nous ne devons pas ignorer les aspects émotionnels, cognitifs, voire spirituels du traumatisme. Toutefois, ces théories suggèrent que la résolution du traumatisme doit se produire au niveau du système nerveux, car c'est là que se situe essentiellement la désorganisation traumatique. Donc nous ne pouvons pas ignorer chez l'être humain qu'il n'est pas qu'un système nerveux, mais si nous voulons le sortir du traumatisme, nous devons nous attacher à là où est le traumatisme, c'est-à-dire le système nerveux, et en particulier le système nerveux autonome. Et pour dire aussi que bien que fondée sur un modèle qui se veut scientifique, la somatic experiencing en tant que méthode pratique, thérapeutique, s'inscrit clairement dans le courant de la psychologie et de la psychothérapie humaniste. Donc la somatic experiencing est clairement dérivée de la gestalt-thérapie et de la bioénergie, auxquelles elle ajoute ces éléments nouveaux. Et comme ces méthodes, elles s'adressent à la globalité de la personne dans toutes ses dimensions, elles s'attachent au processus en cours dans l'ici et maintenant, elles mettent en place les conditions permettant à la personne de retrouver sa capacité naturelle à sortir du figement. Comme nous le verrons, le système nerveux ne demande qu'à sortir du figement si on met en place les conditions qui le lui permettent. Ce n'est pas un processus que nous avons à créer, c'est un processus que nous avons à laisser faire. Et il recourt aux ressources de la personne parmi laquelle la relation thérapeutique, comme vous le verrez, figure vraiment au premier rang. Donc bien au-delà de ce modèle neurophysiologique que je vais brièvement vous présenter, donc je vous invite à lire le livre et les livres de Peter Levine parce que le deuxième livre va paraître en 2014. Très brièvement, pour expliquer aux clients et aux étudiants, quand je fais des introductions, le figement est dans la somatic experiencing, et pour vos clients, il y a un aspect éducatif important. J'évoque souvent la métaphore de la souris. Rappelez-vous que les souris sont poursuivies par des serial killers à longueur de journée. Elles sont très vite stressées et, dans ce modèle, jamais traumatisées, en tout cas dans les conditions de vie normales. Par contre, vous savez que la souris peut être très facilement traumatisée dans des conditions de laboratoire, donc vous pouvez créer, avec le sadisme humain, des conditions de laboratoire qui créent le modèle de désespoir appris, learned helplessness, qui est le modèle du figement. Et donc, de manière métaphorique, je vais vous raconter la vie d'une petite souris. Quand elle entre dans une pièce, elle commence par s'y orienter avec tous ses sens tournés vers l'extérieur, à la fois la vue, l'odorat, le goût, pour voir s'il y a un danger. C'est le processus d'orientation défensive. Je regarde quand j'entre dans une pièce s'il y a un danger. Mon regard, à ce moment-là, est tubulaire et il scanne l'environnement. Elle est prête à prendre la fuite. La souris ne fait pas une analyse statistique de la probabilité qu'il y ait un chat dans la pièce. C'est très important pour la suite de mon exposé. S'il n'y a pas de chat, son état va changer physiologiquement et elle va passer dans ce qu'on appelle un état d'orientation exploratoire. Et son regard physiologiquement va changer. Ce regard qui devient tubulaire et que vous pouvez retrouver chez toutes les personnes anxieuses devient exploratoire et large. Et au lieu de se dire, est-ce qu'il y a un chat ici, ce que vivent la plupart des personnes traumatisées, est-ce qu'il y a un danger ici, ça va passer, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici à explorer? Un autre petit morceau, une autre petite souris ou un morceau de fromage. Et donc vous changez complètement d'état physiologique. Si un chat se présente, la souris va de nouveau changer d'état pour prendre la fuite et échapper au danger. Elle va développer ce qu'on appelle dans notre jargon une réponse motrice adaptée de fuite à la situation de danger présente. C'est-à-dire que si le chat entre par là, ben, la souris va filer par là. Donc elle est en connexion avec l'environnement et elle développe une réponse motrice adaptée. Si elle réussit à l'échapper au danger, ce qui lui arrive quand même de temps en temps, elle revient à son état antérieur. Vous savez tous que si malgré sa fuite, elle se rend compte, la souris ou son système nerveux se rend compte ou analyse qu'elle va être attrapée, il faut bien que les chats mangent aussi, la souris va abattre sa dernière carte, qui est la réponse de figement. C'est quoi la réponse de figement? Donc vous avez une souris qui est lancée à toute vitesse et qui en une fraction de seconde va verrouiller à l'intérieur cette énergie de fuite dans son cas, mais aussi d'attaque. Et mettre toute cette énergie au plus profond d'elle-même et couper l'alimentation vers la périphérie. Donc elle fait la morte, mais elle n'est pas du tout morte. Et donc c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Il n'y a pas du tout de mort là-dedans. C'est une carte qu'elle abat pour s'en sortir. Qu'est-ce qui va se passer si le chat ne la mange pas? Donc le chat joue un petit peu avec. Vous avez sans doute tous vu ça. Et puis il dit, bah, que c'est une souris morte, ça je ne mange pas. Donc il la laisse là. Vous allez voir que la petite souris va libérer immédiatement toute l'énergie accumulée juste avant qu'elle ne la bloque sous forme d'une réponse de fuite et de combat indifférenciée. C'est-à-dire que vous allez voir l'animal développer tous des comportements apparemment de fuite et d'attaque, mais quand le chat n'est plus là. Je dis toujours à mes clients, aucune souris n'est assez bête pour attaquer le chat quand il est là, mais quand il n'est plus là, elle le met en morceaux. Le chat s'en fout complètement, mais elle remet les compteurs à zéro. Et donc ce mécanisme de sortie du figement, il est inscrit dans la biologie de tous les êtres vivants. Quand je ne parviens plus à m'en sortir en me mobilisant, je joue ma dernière carte, je m'immobilise, et quand le danger est passé, je réexprime toute cette énergie sous forme d'une réponse de fuite. Ce mécanisme est universel, et Boris Cyrulnik, qui a fait l'introduction du livre de Waking the Tiger, le décrit très bien chez un crabe. Un crabe, si vous tapez fort à côté de lui, il s'immobilise et puis il a ce mouvement de se remettre en action. Il est donc extrêmement ancien, il est présent chez les reptiles, donc je vous rappelle, ils ont 500 millions d'années. Donc les reptiles sont apparus il y a 500 millions d'années. Et l'observation de base de Peter Levine, qui est à la base de toute sa méthode, est que l'homme semble avoir perdu cette capacité à sortir naturellement du figement directement après l'événement. Et que lui, comment va-t-il sortir du figement, puisqu'il ne libère pas cette énergie sous forme de réponse inadaptée à la situation directement après les faits, il la stocke à l'intérieur de lui, il la lie à l'intérieur de lui. Et où la lie-t-il essentiellement? Dans un premier temps, dans son système musculaire. Vous pensez par exemple aux cuirasses caractérielles de Reich, qui était déjà dans ce modèle-là, c'est verrouiller à l'intérieur de moi la réponse de fuite et de combat le temps qu'il faut. Si le système musculaire n'est plus capable de tenir cette énergie, il va ensuite aller le mettre dans le tube digestif, dans le système bronchio-respiratoire et éventuellement, finalement, dans le système nerveux. Et donc, vous avez un système de réservoir qui permet comme ça d'accumuler toute l'énergie du figement que je n'ai pas pu libérer directement après l'événement traumatique. D'où, bien entendu, tous les symptômes psychosomatiques, post-traumatiques, qui sont liés à cette énergie qui se fige. La plupart des gens traumatisés que vous connaissez ont des problèmes musculaires, ont des problèmes articulaires, ont des problèmes d'asthme, qui est ont des problèmes de tube digestif, de côlon irritable. On sait depuis le début du XXe siècle, entre autres par les études du physiologiste Cannon, que ce processus de figement, de réponse de fuite et d'attaque est géré par le système nerveux autonome, qui, comme son nom l'indique, n'est pas sous notre contrôle volontaire et qui a, je vous le rappelle, des centaines de millions d'années. Je vous rappelle que Sapiens Sapiens a 40 à 100 000 ans. Donc le développement du système cognitif est extrêmement récent et les mécanismes pour faire face aux dangers ont des centaines de millions d'années. Donc c'est important de comprendre ça. Et donc pour ceux, peut-être sans doute dans vos études secondaires, vous vous rappelez que le système nerveux autonome a en gros deux branches, une branche ralentisseuse qui ralentit, une branche activatrice, ce qu'on appelle de manière un peu pédante le système trophotrope et ergotrope. Donc le système parasympathique gère essentiellement toutes les fonctions de restauration et de métabolisme, la digestion, le sommeil, etc. Le système ergotrope, qui est le système de l'adrénaline dont on a parlé ce matin, gère les réponses de fuite et de combat. Et donc l'apport de Porges dans cette double branche parasympathique et orthosympathique est de montrer que le système parasympathique, qui a 500 millions d'années et qui d'ailleurs précède, le système parasympathique qui a 500 millions d'années et qui précède le système sympathique, s'est subdivisé à partir des mammifères en deux branches, qu'il a appelées une branche ventrale et une branche dorsale. Les mammifères sont apparus il y a 80 millions d'années. En réalité, une branche ventrale du système parasympathique s'est différenciée, et l'intérêt, nous montre Porges, de cette branche ventrale, c'est que c'est elle qui permet qu'un mammifère soit un mammifère. Et qu'est-ce que c'est qu'un mammifère ? C'est un animal qui sait prendre soin d'un autre animal. Donc un mammifère, au lieu de mettre un œuf sur la plage comme un crocodile et d'attendre que le soleil fasse son effet, il met d'abord l'œuf à l'intérieur de lui, et lorsque le nouveau-né naît, il n'est pas viable. Et donc il faut des mécanismes qui permettent le soin parental et donc qu'un animal puisse s'occuper d'un autre animal avec également à ce moment-là l'apparition des émotions. Donc le développement du cerveau de Sapiens Sapiens a permis le développement des fonctions cognitives, mais il faut bien comprendre que les mécanismes de figement, de fuite et d'attaque et d'engagement social, donc le mammifère, la souris, le chat, etc., ont des mécanismes d'engagement social et de prendre soin des mammifères de leur espèce, est des dizaines de millions d'années antérieures à l'apparition du langage de Sapiens Sapiens, etc. Et que c'est là que se situent les mécanismes fondamentaux. Les crocodiles, les souris, les chats ont su faire face au danger bien avant que le malin Sapiens Sapiens n'arrive sur Terre. Et donc c'est ça qui est vraiment important à comprendre. Et donc je vais essayer, à partir d'un PowerPoint, de vous illustrer cela.
Figé apparemment. Je vais peut-être prendre ce micro. Je ne sais pas si. Ah ben elle est là. Ouais. Pour que vous puissiez m'entendre.
Et donc, pour ceux qui se rappellent de leurs études secondaires,
je vais passer la diapositive.
Le système parasympathique et orthosympathique fonctionne normalement de manière synergique, c'est-à-dire que quand un est élevé, l'autre est bas. Donc c'est comme ça, comme dans une voiture, c'est aussi une métaphore qu'on utilise, vous ne freinez pas et vous n'accélérez pas en même temps. Donc le système parasympathique s'occupe essentiellement des fonctions trophotropes, alimentation, sommeil, etc., et engagement social. Le système orthosympathique s'occupe des réponses de fuite et de combat. Quand vous n'êtes pas en danger, vous êtes géré essentiellement par votre système parasympathique. La diapositive suivante. Et que se passe-t-il quand il apparaît un danger? Vous désactivez votre système parasympathique et vous activez votre système orthosympathique pour faire face au danger. Rappelez-vous, c'est le système de l'adrénaline. Le sang va aux muscles, au cœur et vous prépare à faire fuite, à fuir et au cerveau quitte le système digestif. Et vous prépare à quoi? La diapositive suivante. À une réponse motrice adaptée de fuite ou d'attaque. Et ça s'accompagne d'une utilisation de cette énergie que vous avez accumulée lors de la préparation. C'est le modèle classique de Cannon des années 60, que normalement on apprend dans le secondaire. La diapositive suivante vous montre que quand le danger est passé, vous retournez à votre état antérieur. La diapositive suivante vous montre... que l'activation du système orthosympathique est progressive et s'accompagne au niveau des émotions d'un accroissement des émotions. Donc vous commencez par inquiétude, irritabilité, la suivante, peur, colère, panique, rage, terreur, fureur. Donc au maximum de votre activation orthosympathique, vous êtes dans l'émotion de terreur, fureur, qui est extrêmement utile puisqu'elle vous permet d'être beaucoup plus prêt à faire face à une difficulté. Vous courrez plus vite un 100 mètres s'il y a un lion derrière vous que si vous faites votre jogging. La diapositive suivante. L'apport de Porges est de montrer qu'en réalité, il y a deux systèmes parasympathiques, une branche ventrale, une branche dorsale, qui, dans les bonnes situations, fonctionnent de manière synergique. La diapositive suivante. Qu'est-ce que c'est que le figement? Le figement, dit Porges, c'est l'activation de la branche dorsale du système parasympathique. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. La métaphore habituelle, c'est-à-dire que dans une voiture, vous avez un frein à pied et un frein à main. Et quand la situation devient, entre guillemets, désespérée, que votre organisme évalue que la fuite et l'attaque ne sont plus possibles, il va activer la branche dorsale du système parasympathique. Alors comment Porges a découvert ça? Il l'a découvert ça en étudiant le contrôle du rythme cardiaque. Et le paradoxe apparent qui fait que les bébés prématurés qui ont un tonus parasympathique élevé sont plutôt à meilleur pronostic que ceux qui ont un tonus parasympathique bas, mais paradoxalement meurent d'un excès de parasympathique. C'est l'excès de parasympathique que vous connaissez bien, c'est la syncope vagale. Et donc il s'est dit, mais comment se fait-il qu'un même système peut à la fois protéger généralement un bébé, mais en même temps le tue? Et de cette observation, il en a postulé l'existence de deux systèmes parasympathiques. Et donc que se passe-t-il quand l'organisme évalue que la fuite et le danger, que la fuite et l'attaque ne sont plus possibles? La diapositive suivante, quand apparaît un seuil, et ça c'est extrêmement important, on a beaucoup parlé de résilience. Qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'êtres humains, nous allons déclencher plus ou moins facilement le figement? C'est le seuil. Et le seuil va être extrêmement différent d'une personne à l'autre, en fonction de notre histoire, en fonction de notre biologie. Donc c'est un peu un phénomène en tout ou rien. Tant que ce seuil n'est pas atteint, l'animal et l'être humain va essayer de se sortir de la difficulté en faisant quelque chose. Dès que ce seuil est atteint, il entre dans une autre stratégie qui est de dire « je vais m'en sortir en ne faisant plus rien ». Ce qui est fondamentalement différent, mais qui est aussi un life-saving mécanisme. La diapositive suivante. Une fois que ce seuil est atteint, le système parasympathique dorsal, qui est un système freinateur extrêmement ancien, se met en route et verrouille l'animal. Et cet animal n'est pas au repos. Il n'est pas mort non plus. Il est bourré d'énergie verrouillée. C'est très important de comprendre, parce que quand vous dites « je suis dissocié, c'est comme si mon bras était mort », c'est très différent que de dire « je suis dissocié, mon bras est bourré d'énergie verrouillée ». Donc vous voyez déjà au niveau du client que ça peut déjà beaucoup changer. Une fois que ce seuil est dépassé, tout le temps du danger, où l'animal fait le mort, le système orthosympathique est à fond et le système parasympathique est à fond. C'est-à-dire que les deux systèmes, au lieu de fonctionner de manière synergique, fonctionnent simultanément. Et l'animal, c'est comme une voiture qui n'est pas au repos, mais où l'accélérateur est à fond et le frein à main tiré. La diapositive suivante. Qu'est-ce qui se passe quand le danger est passé? Je dis toujours que l'univers n'a pas été assez stupide pour créer un mécanisme qui fait que la souris reste figée 40 ans après que le chat soit parti. Donc, quand le danger est passé, la diapositive suivante, à l'arrêt du danger, la suivante, l'animal désactive son système parasympathique dorsal, la diapositive suivante, et fait ce que je vous décrivais tantôt, c'est-à-dire une réponse motrice indifférenciée. C'est-à-dire qu'il libère toute cette activation orthosympathique directement après l'événement. Et il remet les compteurs à zéro. La diapositive suivante. Qu'est-ce qui se passe, d'après Peter Levine, toujours de manière un peu métaphorique, si jamais l'être humain ne fait pas comme l'animal? La diapositive suivante. À l'arrêt du danger, la diapositive suivante. Il désamorce aussi son système parasympathique dorsal et il stocke à l'intérieur de lui cette énergie de fuite et de combat, essentiellement dans son système musculaire dans un premier temps. Donc vous voyez la grande différence entre l'être humain et l'animal au niveau, donc l'exemple que je donne, vous avez un accident de voiture, vous êtes à un feu rouge, on vous rentre dedans, vous développez votre système orthosympathique, vous le bloquez immédiatement. Parce que dans une voiture, la réponse de fuite et de combat n'est pas très utile. Les voitures sont très solides pour le moment. Donc vous sortez de votre voiture et vous ne courez pas autour de la voiture en lui donnant des grands coups de marteau. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un constat. Et donc vous stockez à l'intérieur de vous cette énergie de fuite et de combat. Et vous la stockez essentiellement où? Dans la nuque et les épaules, dont tous les syndromes de whiplash syndrome, qui sont toutes ces personnes qui, suite après un choc où il y a eu ce mouvement, ont verrouillé cette zone-là et sont entrées dans le traumatisme. La diapositive suivante. Quel est le danger des méthodes cathartiques selon Peter Levine et selon ceux qui pensent que cette théorie est juste? C'est que si vous mettez plus d'énergie dans un système qui est déjà verrouillé, qu'est-ce qui se passe? La diapositive suivante, vous augmentez l'énergie, comme on faisait dans le temps dans la bioénergie, les gens sont bloqués, vous les faites taper dans des coussins. La diapositive suivante, c'est que vous les fragmentez. C'est-à-dire que le surplus d'énergie que vous créez, l'organisme essaye désespérément de le mettre quelque part, et donc il va le mettre par exemple dans le tube digestif. Un de mes formateurs travaille dans un centre où on a fait beaucoup de la bioénergie. Il dit, quand on les voit, ils ont tous l'air zen. Mais quand on les écoute, on voit tous qu'ils ont un côlon irritable, de l'asthme, des migraines, qui sont allergiques aux ondes téléphoniques, etc., ce qui est un symptôme typique d'accumulation d'énergie dans le système nerveux. Donc, même si les gens vont apparemment mieux, vous n'êtes pas sûr qu'en réalité, vous n'avez pas aggravé leur problème. La diapositive suivante. Les caractéristiques du système nerveux autonome, mais je n'aurai pas beaucoup de temps, donc c'est qu'il est autonome. Il est lié au cerveau reptilien dont on va vous parler, je crois, après moi, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le cerveau reptilien ne connaît que sensation, action, image. Un crocodile, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas de pensée, mais si vous marchez sur la patte d'un crocodile, il sent qu'on marche sur sa patte, il peut faire une image de ce qui marche sur sa patte et il peut agir. Donc ça, ces trois choses-là, il les connaît, ce qui explique l'importance de travailler sur le corporel dans le domaine du traumatisme, parce que vous devez travailler sur cet endroit-là, puisque c'est là que se situe la sidération traumatique. Comme on l'a dit tantôt, on se pose beaucoup de questions sur la notion du temps, Mais le cerveau reptilien, le temps, il ne sait pas ce que c'est. Hein, il n'y a que Sapiens Sapiens qui sait ce que c'est que le temps. Rappelez-vous que Sapiens Sapiens est défini par le fait qu'il sait ce que c'est que le temps. Et très important, et qu'utilise toutes les thérapies, c'est que le cerveau reptilien ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc si vous imaginez une situation, quelle qu'elle soit, que vous l'incorporez dans un langage que le cerveau reptilien connaît, sensation, action, image, pour lui c'est plus vrai que la réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez au cinéma. Hein. Si vous allez au cinéma, vous regardez des images qui passent, qui sont très très imagées, et surtout si on met en trois dimensions avec du sang, avec du son, pas avec du sang. Avec du sang aussi. Et pendant le temps du film, vous êtes un pirate des Caraïbes. Sinon, vous n'iriez pas au cinéma. Donc votre différence entre imaginaire et réalité est beaucoup plus faible que vous ne le croyez. Et si en plus je mets du sang, effectivement, c'est-à-dire que je vous passe massacre à la tronçonneuse, là vous allez prendre la main de votre voisin et fermer les yeux, c'est-à-dire que vous allez vraiment croire que vous êtes en danger. Parce que votre cerveau reptilien inondé de signaux de danger perd la notion que finalement il n'y a pas de danger. La diapositive suivante. Donc vous montre que les thérapies de type somatic experiencing, il n'est pas la seule, vont avoir un objectif radicalement différent. Puisque l'idée, c'est que le figement, l'animal ou l'être humain ne demande qu'à en sortir, mais qu'il en a peur. On va essayer de faire ce qu'on appelle la titration, c'est-à-dire de couper l'événement traumatique en suffisamment de petits morceaux pour que sur chaque petit morceau, là, le système, le cerveau reptilien, puisse dire une réponse motrice adaptée est possible. Donc rappelez-vous, l'être humain a perdu la capacité de réponse motrice inadaptée, mais heureusement, on n'a pas perdu la capacité de réponse motrice adaptée. Si vous faites revenir à la personne l'événement tel qu'il est, le cerveau reptilien va dire les mêmes causes conduisent aux mêmes conséquences, je me fige. Mais si je prends un petit morceau, sur ce petit morceau-là, j'ai une possibilité d'agir. L'exemple classique, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, vous allez lui dire, par exemple, quel est le premier moment où vous êtes senti en insécurité. Et donc vous prenez un petit morceau de cet événement, et sur ce petit morceau, vous pouvez avoir une certaine chance qu'il y ait une réponse motrice adaptée. Par exemple, vous mettez la voiture très très loin, et vous allez voir que la personne va s'orienter vers la voiture, ce qui est un début de réponse motrice adaptée. Donc on va couper l'événement en tout petits morceaux, la diapositive suivante, la suivante, la suivante, la suivante, la diapositive suivante. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est ajouter dans la scène des éléments qui n'y étaient pas. C'est la notion de ressources manquantes. Qu'est-ce qui a empêché la personne de résoudre le traumatisme par une réponse motrice adaptée? C'est que l'événement était trop important et qu'il manquait de ressources. La palisse en aurait dit autant. À partir du moment où vous coupez en petits morceaux et que vous ajoutez des ressources, vous augmentez encore la probabilité d'une possibilité de réponse motrice adaptée. La diapositive suivante. Il y a des ressources aspécifiques. Les deux ressources aspécifiques les plus importantes, c'est le lien avec le thérapeute. Le lien est l'antidote du figement, puisque rappelez-vous, la souris dans les pattes du chat, elle s'est coupée de son environnement. Quand vous mettez du lien de quelque nature que ce soit, en particulier par le toucher, comme disait quelqu'un ce matin, vous êtes dans un antidote du figement très puissant. La deuxième chose qui est un antidote très puissant, c'est l'orientation ici et maintenant. Vous rappelez la personne qui était dissociée dont on parlait ce matin, son mari très intelligemment l'a touchée et lui a dit « ouvre ton sac ». Donc il l'a orientée dans le moment présent. Et juste maintenant, elle n'est pas en danger. Donc vous avez là deux ressources spécifiques. Et pour chaque traumatisme, vous avez des ressources spécifiques. Et donc ça fait l'objet de la méthode thérapeutique, évidemment, de voir quelles sont les ressources manquantes que vous devez ajouter à la personne en fonction du traumatisme qu'il a. Par exemple, les traumatismes chez les enfants, vous devez absolument mettre un adulte comme allié protecteur. Aucun enfant ne sort d'un traumatisme s'il n'a pas un adulte qui le protège. Donc si vous faites entrer dans la séquence un allié protecteur, que vous l'incorporez au niveau sensation, action, image, vous verrez une réponse de sortie du figement. La diapositive suivante. Quand vous faites ça, suivante,
C'est-à-dire que vous couplez un morceau du traumatisme avec suffisamment de ressources. Qu'est-ce que vous avez? La diapositive suivante. Une réponse motrice adaptée. Et vous faites ça autant de fois qu'il est nécessaire, jusqu'à en quelque sorte vider de toute cette énergie de fuite et de combat la personne humaine qui a été victime d'un traumatisme. La diapositive suivante. On va passer celle-là, la diapositive suivante. Donc il y a toujours trois phases dans le traitement d'un traumatisme, selon cette méthode. La première, la personne est dans le chaos du traumatisme, il est figé, il se sent seul et impuissant. Vous avez une phase active, donc où vous mettez en place les conditions qui permettent à la personne de sortir du figement. Il faut un tiers qui supplée, qui apporte la ressource manquante. Et la troisième étape ne dépend pas de vous. Quand vous avez mis suffisamment en place de conditions, vous verrez la personne sortir du figement. La diapositive suivante. Alors il faut savoir, tantôt on disait, tiens, ben, les MDR, ça ne va pas avec des personnes extrêmement traumatisées parce qu'elles sont incapables d'entrer dans les sensations corporelles. Ce qui est vrai aussi dans le domaine de la somatic experiencing, c'est souvent très difficile de faire entrer les gens dans leurs sensations corporelles. Parce que les personnes ne craignent pas la mort, contrairement à ce qu'on croit, la mort, ils ne savent pas ce que c'est, et ils craignent le figement. Et le figement, c'est une sensation horrible d'impuissance. Je suis là, comme si j'étais une petite souris dans les pattes d'un chat. Donc vous imaginez que la personne craint d'entrer là-dedans, d'une part parce qu'elle croit qu'elle est sans fin et sans fond, ce qui n'est pas le cas. Rappelez-vous que le figement est spontanément résolutif. Et d'autre part, qu'il y a une forme de fin d'anesthésie et il y a un retour d'émotion intense. Vous vous rappelez que quand nous avons une réponse motrice adaptée suite à un figement, ben, il y a beaucoup d'émotions qui sortent à ce moment-là. La suivante. Et donc, qu'ajoute la théorie polyvagale des émotions de Stephen Porges à ce modèle, qui est le modèle de Peter Levine? C'est donc qu'il existe trois systèmes neuronaux supportant trois stratégies adaptatives. La diapositive suivante. Et la hiérarchie, par défaut, c'est un concept neurologique qui dit que lorsqu'un organisme est en difficulté, il va chercher les mécanismes de défense les plus anciens. On voit ça dans d'autres domaines de la médecine. La diapositive suivante. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ce mécanisme du système nerveux autonome est fondamental à la vie. Et c'est à la base de tout ce qui est accélération, freinage pour notre organisme. Vous vous rappelez la métaphore de la voiture. Mais c'est aussi à la base de tout ce qui est approche-évitement, fusion, différenciation, attirance, répulsion. Donc nous avons à l'intérieur de nous ce mécanisme du système nerveux autonome qui est à la base de tous ces mécanismes que nous croyons psychologiques, mais qui sont en réalité fondamentalement physiologiques. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'évolution, les organismes au départ n'avaient qu'un système activateur disséminé, la suivante, est venu se greffer là-dessus un système freinateur, qui est le système parasympathique dorsal, la suivante. Ensuite, la suivante. La suivante.
Vous n'avez que quelques minutes. Okay. Je vous ai donné le retard.
Ok, ok. Donc je vais essayer d'aller vite. Et là-dessus, donc, il y a un système orthosympathique, la diapositive suivante. La suivante. Oh là là, je perds des minutes. Les reptiles ont ajouté les surrénales, la suivante. La suivante. Et donc avec les mammifères est apparu un système parasympathique ventral myélinisé, donc qui est le parasympathique ventral. La suivante. Donc, il y a trois états possibles du système nerveux, en gros, chez les mammifères et chez l'être humain. Un système lié au système du système parasympathique ventral, qui est le système d'engagement social, la suivante. Le système de fuite et de combat de type orthosympathique, la suivante. Le figement, donc, qui est le parasympathique dorsal. Donc, ça vous permet de voir ces trois états dans lesquels nous pouvons être. Et nous, dont nous devons être familiers lorsque nous traitons des personnes traumatisées. Est-ce que la personne est dans l'engagement social, dans la fuite et le combat ou dans le figement? La suivante. Je vais très vite passer là-dessus. Donc ce qui est intéressant avec le modèle de Porges, c'est qu'il a créé une mesure du système parasympathique ventral. Et donc vous savez qu'en médecine, souvent les choses n'existent que quand on peut commencer à les mesurer. Et donc, il y a une mesure, c'est la respiratonie sinus arythmie. Donc, c'est la différence de rythme cardiaque entre l'inspiration et l'expiration. Donc, normalement, à chaque inspiration, notre rythme cardiaque ralentit un peu. À l'expiration, il diminue un peu. La différence nous donne une mesure du tonus parasympathique ventral, c'est-à-dire du contrôle sur le cœur du tonus parasympathique ventral. La suivante. Oui, passer, celle-là. La suivante. On peut passer. On va passer celle-là. Je vais juste vous montrer deux petites études qui confortent ces hypothèses et ces modèles, et qui pour moi m'ont fasciné. Donc c'est une étude toute simple, on prend un groupe de sujets borderline et un groupe de sujets contrôle, et en présence d'un tiers, on leur fait passer trois films. Deux sont stressants, un est neutre, un premier stressant, une relation mère-enfant difficile, neutre, et puis de nouveau stressant, relation père-enfant difficile. La diapositive suivante. Ce qu'on voit, c'est que les sujets borderline vont désengager leur système d'engagement social. Alors que les sujets témoins vont engager leur système d'engagement social. Ce qui veut dire que face à un stress, les sujets traumatisés de manière tout à fait inconsciente vont avoir tendance à passer en réponse de combat, alors que les sujets témoins vont eux se dire « je suis en difficulté, j'essaye de rencontrer quelqu'un ». La diapositive suivante. Donc vous montre que la RSA chez ces sujets, donc vous avez la ligne de base, film 1, film 2, film 3, vous voyez que progressivement les sujets contrôle vont devenir de plus en plus sociaux, les sujets traumatisés vont devenir de plus en plus combatifs. La suivante vous montre la même chose. La suivante, qui est encore plus extraordinaire pour moi, vous prenez deux groupes de femmes, un groupe de femmes abusées sexuellement, un groupe de femmes témoins, et vous leur faites simplement faire du vélo. Donc vous activez un peu leur système orthosympathique dans une activation. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que les sujets abusés sexuellement vont désengager leur système d'engagement social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute activation chez des sujets traumatisés va complètement inconsciemment les amener à se désengager socialement. Et je termine là-dessus avec une minuscule conclusion. Donc pour vous dire que ces études préliminaires suggèrent que la non-résolution du traumatisme, c'est-à-dire le non-achèvement de la réponse biologique dont je parlais tantôt, et j'ai pas eu le temps d'entrer dans les détails, mais l'achèvement de la réponse biologique, c'est pas des paroles, c'est sensorimoteur. Donc il faut que, comme la petite souris, l'être humain actionne son système sensation-action-image pour sortir du figement, entraîne une diminution physiologique de la capacité à avoir foi dans les comportements sociaux visant entre autres à obtenir un soutien extérieur, dont bien entendu le vôtre, celui du thérapeute, et une augmentation de la tendance à se préparer automatiquement à des comportements de fuite et d'attaque. Il en résulte que pour résoudre le traumatisme, l'accent doit être mis sur des stratégies visant prioritairement à passer d'états physiologiques sous-tendant la fuite, l'attaque et le figement vers des états physiologiques de sécurité et d'engagement social. Il s'agit en résumé de devenir de plus en plus mammifère et de moins en moins reptile, et possiblement, dans le meilleur des cas, in fine, humain, c'est-à-dire porteur de sens. Merci.
Merci beaucoup, Michel. On n'a pas de temps pour les questions, que je vous invite à reporter pour la table ronde. Et nous allons maintenant entendre Laurence Carluer, mais merci Michel de nous avoir déjà introduit dans le monde de la neurophysiologie. On va continuer un peu plus encore profondément dans le fonctionnement du cerveau. Donc, on a pu voir avec l'exposé de Michel que les apports des neurosciences, donc des études beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus qui se servent des, non seulement des observations cliniques, mais des imageries médicales, nous permettent de comprendre et de valider ou d'invalider certaines de nos approches thérapeutiques qui peuvent être dommageables pour le client. Et je vous remercie d'avoir insisté sur, enfin d'avoir expliqué que si l'on faisait crier les gens, si on leur faisait crier leur colère alors qu'ils sont dans un figement traumatique, on ne faisait que renforcer leur traumatisme. Et ça, je crois que c'est vraiment important que les psychothérapeutes humanistes le sachent. C'est une des raisons qui a fait que nous avions envie de faire cette communication dans ce colloque, enfin, ces communications, pour bien comprendre que là, il s'agit de quelque chose qui est neurophysiologique. Je ne sais pas comment il faut l'appeler exactement, mais...
Je vais rester debout.
Vous restez debout. Donc, Laurence Carluère, merci beaucoup d'être là aussi. Laurence est neurologue au CHU de Caen et membre de l'équipe INSERM de Caen. Et vous êtes en charge d'une équipe de recherche. Alors, sur un sujet très technique, je vais essayer de dire ce que vous faites, à moins que vous ne le disiez mieux que moi.
Oui, je dirige un projet de recherche sur une maladie qui est neurologique, qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique, encore connue sous le nom de maladie de Charcot. Et dans cette pathologie, je m'intéresse surtout aux aspects, aux troubles émotionnels et cognitifs, dans une équipe qui, au-dessus de moi, s'occupe de tous les aspects de la mémoire humaine et de ses pathologies.
Donc, Laurence va nous montrer comment nous pouvons métaboliser notre mémoire traumatique, mais surtout, elle va nous expliquer comment fonctionnent les trois cerveaux, donc, d'après les schémas de MacLean. Et je pense que cette intervention va bien conclure sur l'aspect, avec l'aspect neuroscientifique et va nous permettre de mieux comprendre encore tout ce qui se passe avant d'intervenir avec nos patients. Et ensuite, nous aurons la pause. Et Laurence m'a expressément demandé de reporter vos questions à la table ronde. Donc ça va être encore un sujet très technique, mais je suis sûre très clair et passionnant.
Merci Michel. Dans cette présentation, je voudrais aussi ajouter que je suis thérapeute certifiée en IFS, qui est un modèle de psychothérapie qui a été présenté à ce colloque l'an passé par le docteur François Lebaudoz, et que ce modèle de psychothérapie fera l'objet d'une table ronde demain. Et donc c'est avec ce chapeau à trois facettes, la neurologie, la recherche et également la psychothérapie, que je vais essayer de vous guider dans ce voyage au cœur du cerveau. Alors ma présentation va se diviser en trois parties. Une première qui va concerner quelques notions sur la régulation des émotions et qui va introduire la deuxième partie, qui sera donc le cœur du sujet, le psychotraumatisme et ses impacts sur le cerveau. Et dans une troisième partie, nous aborderons quels sont les mécanismes neuronaux qui sont impliqués dans la relation thérapeutique. Alors, notre cerveau raconte une histoire. On pourrait même dire deux histoires. La mienne, celle qui m'appartient en tant qu'individu, mais aussi celle de mon espèce. Et si on regarde l'histoire de l'évolution des espèces, finalement, on peut se demander, on peut se poser une question qui serait la suivante. Finalement, qu'est-ce qui me fait passer de là à là ? Nous sommes là aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui me fait passer de là à là ? Eh bien, la réponse, c'est la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer le cerveau comme quelque chose de changeant, de continuellement en mouvance. C'est-à-dire que le cerveau, c'est un système qui construit en permanence de nouveaux circuits neuronaux. Alors c'est quoi ces circuits neuronaux ? Eh bien ça pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire des neurones qui communiquent entre eux par des synapses. Si bien qu'on pourrait conclure que la finalité de la plasticité cérébrale, finalement, ça pourrait être de faire communiquer les neurones entre eux. Et si on se replace sur l'histoire, sur l'échelle de l'évolution, cette finalité de la plasticité cérébrale, outre sa vocation à faire communiquer les neurones entre eux, elle va avoir comme vocation aussi, finalement, de faire communiquer les hommes entre eux. Et c'est l'apparition, dans l'échelle de l'évolution, du cerveau relationnel. Alors ce cerveau relationnel, il est ici représenté par le cortex, qui est la structure plissée du cerveau, et plus particulièrement par le cortex préfrontal. Donc si on retourne sur l'échelle de l'évolution, qu'est-ce qu'on voit ? Ben que le cortex préfrontal, c'est-à-dire mon cerveau relationnel, il est apparu très tardivement dans l'évolution. Et si de cette image, qui est l'évolution, l'échelle de l'évolution des espèces, on fait une transposition au titre individuel, à l'échelon de l'individu, eh bien c'est quelque chose d'un peu magique, mais c'est presque la même chose, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le cortex préfrontal, c'est la région la plus immature, en fait, quand on est à la naissance. Et que c'est cette région cérébrale qui donc va devenir mon cerveau relationnel, qui va en fait se développer progressivement dans la relation interpersonnelle et pour le tout petit, dans la relation avec sa mère. Donc vous l'avez compris, que le cortex, ici représenté en rouge, c'est la partie la plus récente. Ça suppose donc qu'il y a des parties plus primitives, on en a déjà un petit peu parlé dans la présentation précédente. Et les parties les plus primitives, ça va être le cerveau limbique, ici représenté en jaune, avec deux structures importantes que je vous invite déjà à retenir, qui sont l'amygdale et l'hippocampe, et puis le cerveau reptilien. Et c'est le fameux cerveau triunique de MacLean que vous connaissez tous. En fait, MacLean, il a compris que ces trois cerveaux avaient des fonctions différentes, ça va de soi, des niveaux de compétences très différents, mais qu'en fait, ces trois cerveaux, ils tendent tous les trois tendent vers un seul objectif, assurer notre sécurité. Un, la sécurité intérieure, et ça va être la régulation de la température, le rythme cardiaque, la respiration, et ça va être médié par le cerveau reptilien, et puis ma sécurité extérieure, dans mon interaction avec les autres. Donc on va voir que le cortex, donc autant le cortex a une capacité de flexibilité et d'adaptation, et c'est ce que je vais avoir besoin dans mes rapports avec les autres, autant le cerveau reptilien a un fonctionnement rigide. Parce que là, au moment où je vous parle, je ne suis pas en train de contrôler ma température corporelle, heureusement, sinon la vie serait impossible. Et donc entre les deux, on a le cerveau limbique. Alors on va voir ce qui caractérise un peu ces trois cerveaux rapidement. Donc le cortex, et je vais vraiment porter le focus sur le cortex préfrontal, c'est le propre de l'homme. Vous l'avez tous compris, et c'est ce qui va permettre l'élaboration de processus cognitifs extrêmement élaborés, le raisonnement, le langage, la pensée abstraite. C'est par ce cortex, en fait, qu'on va accéder à une représentation du monde extérieur. Pourquoi ? Parce que ce cortex cérébral, là, préfrontal, il est complètement relié à toutes les autres régions cérébrales qui traitent toutes les informations qui viennent de l'extérieur. Et puis, on va le voir aussi dans cette présentation, ce cortex préfrontal, c'est ce qui nous permet d'accéder à notre propre monde intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est directement connecté avec le cerveau limbique. Donc, vous comprendrez que ce cortex préfrontal, il intervient dans les phénomènes de pleine conscience, de sentiment de soi, et donc de relation à l'autre. Donc, le cerveau limbique. Le cerveau limbique donc, existe chez tous les mammifères, c'est le siège principal des comportements émotionnels, et dans ce cerveau limbique, il y a deux structures importantes, l'amygdale en rouge et juste à côté l'hippocampe. L'amygdale, elle fait deux choses. Elle va attribuer à toutes les expériences que nous vivons une signification émotionnelle, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit, en fait, l'amygdale va le colorer avec des émotions. Et puis, deuxième fonction très importante, elle va décoder tout ce qui peut être menaçant pour moi. C'est-à-dire que ça en fait le centre de la peur. Et puis à côté, donc, tout proche de l'amygdale, il y a l'hippocampe, qui lui, donc c'est ce qui est lésé dans la maladie d'Alzheimer. Donc l'hippocampe, lui, travaille plus dans l'enregistrement de tous les détails de mes expériences. Donc ça va être impliqué dans la mémorisation des détails, dans leur contexte spatial et temporel. Et les deux ensemble communiquent en permanence, en temps normal. Enfin, le cerveau reptilien, qui sur le plan anatomique, en fait, correspond au tronc cérébral, ici entouré en rouge. Le tronc cérébral, on l'a vu, c'est les grandes fonctions vitales, la température, la respiration, le rythme cardiaque. C'est aussi le siège des comportements de défense, et ça vient d'être abordé dans la présentation précédente que vous connaissez, qui sont la fuite, la lutte ou le figement. En fait, ces systèmes de défense, ils sont absolument pas orchestrés par le cortex, mais ils sont complètement orchestrés par le cerveau reptilien. Il faut savoir que chez l'animal, la stimulation de cette zone dans le tronc cérébral va provoquer la réponse de figement. Alors, qu'est-ce qui se passe en temps normal et qu'est-ce qui se passe en cas d'événement traumatique ? En temps normal, en fait, ces trois dimensions, ces trois cerveaux communiquent de façon harmonieuse. C'est un dialogue permanent. Il faut savoir que le processus, et c'est ça qui va créer en fait une régulation des émotions et une régulation qui va être efficace. Et donc, je vais vous donner un exemple, par exemple, des régulations émotionnelles efficaces. Je fais une randonnée en montagne, je marche donc, et tout d'un coup, sur mon chemin, je vois quelque chose que je prends pour un serpent. Immédiatement, je m'arrête et j'ai peur. Pourquoi ? Parce que, en fait, mon amygdale, elle a la capacité de voir le danger avant même le cortex. Et elle va aller dire au tronc cérébral, oh là là, on stoppe tout, on arrête la machine. C'est ma réaction de figement. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? C'est pas que le cortex y fait rien, mais le cortex, lui, il intègre une multitude d'informations sur ce fameux bâton. Et donc le cortex, à un moment donné, il va pouvoir dire à l'amygdale, il va frapper à la porte de l'amygdale et dire, super, t'as super bien travaillé, mais là, en fait, bah écoute, t'as bien fait de faire ça, mais tu t'es trompé, en fait, c'est pas un serpent, c'est un bâton. Et donc le cortex va dire à l'amygdale, bah maintenant, plus de calme, il n'y a plus de danger. Par contre, si le cortex finit par dire, attention, là, c'est effectivement un serpent, il va aller aussi remercier l'amygdale, et puis il va lui dire, bravo, tu t'es pas trompé, c'est vraiment un serpent. Et là, du coup, il dit, ok, maintenant tu fais ce que tu veux, et l'amygdale, avec le tronc cérébral, elles vont opter entre la fuite, la lutte, le figement. Là, dans ce coup-là, je ne vais pas lutter contre le serpent, je vais plutôt, après la réaction de figement, fuir. Donc, qu'est-ce qui se passe en temps normal ? Eh bien, c'est ça. C'est que mon cortex, donc la dimension cognitive, a la capacité de réguler, de dialoguer, en fait, avec l'amygdale, qui elle-même dialogue avec le tronc cérébral. En cas d'événement traumatique, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, finalement, ces trois dimensions ne peuvent plus communiquer entre elles. Et qu'est-ce que ça donne ? Entre autres, ça donne que, par exemple, le cortex, cette dimension cognitive, le cortex préfrontal médian, n'a plus la capacité de rentrer en dialogue avec l'amygdale. Il n'a même plus la capacité de la réguler. Il n'a même plus la capacité de lui dire, là, tu peux stopper, tout va bien, il n'y a plus de danger. Ça, c'est perdu. Alors, les messages à retenir de cette première partie, c'est que la régulation émotionnelle suit une organisation hiérarchique, c'est-à-dire que le cortex préfrontal peut réguler l'amygdale et le tronc cérébral. Deuxième message, je pense que vous l'avez bien compris, finalement, plus une expérience traumatisante submerge l'individu, plus les parties primitives de son cerveau se mettent en jeu. Donc, on va aborder la deuxième partie. Donc, l'événement traumatique. Donc là, on est dans le cœur du sujet. L'événement traumatique va provoquer, on l'a vu, il y a différentes définitions, mais en gros, une effraction dans l'espace psychique. Cette effraction va pouvoir consister en ce qu'on appelle une mémoire traumatique. Et quelles sont les caractéristiques de cette mémoire traumatique ? C'est qu'on ne peut pas l'oublier. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est la mémoire. Oui, mais la mémoire, elle a aussi la fonction d'oublier. Elle a une fonction de retenir, mais aussi d'oublier. Et cette mémoire traumatique, on n'arrive pas à l'oublier. L'autre caractéristique de la mémoire traumatique, c'est qu'elle est anhistorique. On l'a entendu ce matin. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'intégrer dans notre vie. Ça rentre dans aucune case. Et donc, ce volcan, en fait, c'est une métaphore pour montrer, en gros, comment peut s'exprimer cette mémoire traumatique. Donc on va voir, elle peut s'exprimer par des troubles somatiques, par des troubles psychiatriques, voire ne pas s'exprimer du tout avec un volcan soi-disant au repos. Et puis, il y a une façon très bruyante pour elle de s'exprimer, ça va être l'état de stress post-traumatique. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, là, ce qui va se passer dans les minutes suivantes, c'est que je vais beaucoup citer d'études sur l'état de stress post-traumatique. Pour quelle raison ? C'est parce qu'en fait, cet état de stress post-traumatique correspond à des critères cliniques bien spécifiques. Et c'est-à-dire que grâce à eux, grâce à ces critères, on a pu identifier des populations homogènes de patients, c'est-à-dire des patients qui présentaient les mêmes symptômes. Et à partir de là, on a pu construire des études scientifiques. Donc c'est la raison pour laquelle je vais beaucoup citer d'études sur l'état de stress post-traumatique. Donc l'état de stress post-traumatique, il a été décrit dans les années 80 chez les vétérans de la guerre du Vietnam. Sa définition, c'est un trouble consécutif à un événement traumatique. Et là, on peut avoir toute une série d'événements traumatiques, les catastrophes naturelles, une agression violente, physique, qui va être perçu comme l'individu comme ayant menacé sa vie ou son intégrité physique et ayant entraîné un sentiment de peur, d'horreur ou d'impuissance. Quels sont les critères cliniques de l'état de stress post-traumatique ? C'est intéressant parce que, au travers de ces critères cliniques, on voit que les trois dimensions, nos trois cerveaux, sont affectés par ça. Alors, le premier critère, c'est le syndrome de répétition. Ça a été évoqué ce matin, c'est les patients vivent comme si le trauma qui a peut-être eu lieu hier, mais peut-être eu lieu il y a un an, et peut-être eu lieu il y a 10 ans, en fait, il se vit comme s'il avait lieu aujourd'hui, à ce moment précis. C'est ce qu'on appelle la reviviscence traumatique. Et ça se manifeste comment ? Par des souvenirs intrusifs, des flashbacks, des rêves d'angoisse. Et ça va être la dimension émotionnelle. Vous comprenez que vivre comme ça, ça va avoir un impact sur mon corps. Et mon corps, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va se mettre dans un état d'hyperactivité, et c'est le système neurovégétatif, avec une hypervigilance, des troubles du sommeil, une irritabilité, des troubles de la concentration. Et c'est la dimension sensorimotrice de l'état de stress post-traumatique. Et qu'est-ce qui fait le cortex dans tout ça ? Ben, il essaye de se débrouiller. Et la meilleure des stratégies qu'il a trouvées, c'est finalement, j'évite tout ce qui peut me rappeler l'événement traumatique. C'est toujours mieux que rien. Et donc ça, c'est les trois dimensions de l'état de stress post-traumatique. Alors si on regarde d'un peu plus près la mémoire traumatique dans l'état de stress post-traumatique, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a un paradoxe. Et ça, c'est vraiment important de le noter. C'est complètement paradoxal. Il va y avoir une hypermnésie. Donc, amnésie, c'est plus de mémoire. Hypermnésie, c'est trop de mémoire. Donc, il y a une hypermnésie des aspects émotionnels de l'événement traumatique. Et ça, ça va contraster avec ce qu'on voit de façon récurrente chez ces malades, une difficulté à rappeler de façon cohérente les détails de l'événement traumatique. Et maintenant, vous savez que tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est de la mémoire émotionnelle, c'est l'amygdale. Et tout ce qui est détail, temporel, spatio, c'est l'hippocampe. Alors, on va voir ce qui se passe, parce que j'ai dit tout à l'heure, qu'en temps normal, il y a un dialogue permanent entre l'amygdale et l'hippocampe, et on va voir pourquoi ça se passe comme ça. Donc là, sur l'échelle horizontale, vous avez l'intensité des émotions. Ça va de neutre à extrême. Puis sur une échelle verticale, vous avez le niveau d'activation de l'amygdale et de l'hippocampe. Par exemple, vous avez payé votre inscription au colloque de la FF2P, vous avez envie d'apprendre, donc là, votre hippocampe, il est hyperactivé. Si moi, en plus, je fais passer un peu d'émotion dans ma présentation, ça va commencer à activer un peu votre amygdale. Donc, votre hippocampe, il est là, il est hyperactivé. Si je fais un truc plan-plan, votre amygdale, elle va rester comme ça. Ça ne va pas vraiment favoriser l'apprentissage. Par contre, si je commence à faire passer un peu d'émotion, là, l'amygdale, elle va commencer à dire à l'hippocampe, ah, « Vas-y, vas-y, prends ça, rappelle-toi de ça. » Donc, en fait, l'amygdale, elle va avoir un effet excitateur sur les mécanismes d'apprentissage en ayant stimulé l'hippocampe. La situation dégénère. Par exemple, pour moi, je sors du colloque et finalement, je me fais agresser dans le métro. Là, mon amygdale, elle va passer d'un état à peu près là, parce que j'ai pris du plaisir à vous faire cette présentation, à ici, à un niveau quasiment extrême. Et là, l'amygdale, elle va faire un truc, elle va dire à l'hippocampe, ça, je ne veux pas que tu t'en souviennes. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté Le fait qu'on a une hypermnésie des aspects émotionnels de l'événement traumatique et de l'autre, l'incapacité de rappeler vraiment les détails, rapporter vraiment ce qui s'est passé. Et on va voir ce que ça donne sur le plan de l'imagerie médicale. Ça, c'est effectivement la situation qu'on voit dans l'état de stress post-traumatique. Alors, sur le plan de l'imagerie médicale, tout d'abord, je dois vous expliquer deux choses. C'est qu'on a la capacité maintenant, avec les IRM de recherche, de détecter deux sortes d'anomalies. C'est assez facile à comprendre. Les anomalies de type structural, c'est-à-dire que je vais étudier le volume d'une région cérébrale et je vais m'apercevoir que ce volume est réduit. Ça, c'est les modifications structurales. Et puis, on peut aussi voir des modifications fonctionnelles. Le volume de ma région, il est normal, mais par contre, elle fonctionne soit trop, soit pas assez. Et comment on peut voir ça? Comment on peut voir qu'une région fonctionne trop ou pas assez, ou qu'elle a un volume réduit ou tout ça? Eh bien, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre des groupes de patients homogènes qui présentent les mêmes symptômes, donc par exemple, dans ce cas ici présent, l'état de stress post-traumatique, et puis à côté, je vais prendre un groupe de sujets sains. Et je vais faire passer à ces deux groupes des IRM, et je vais comparer ces IRM, et c'est ce qui va me permettre de mettre en évidence des différences, et avec des logiciels, forcément, c'est de soit mettre en évidence des modifications de volume, soit plutôt des modifications de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'état de stress post-traumatique ? On voit à la fois des modifications structurales et des modifications fonctionnelles dans des régions cérébrales qui sont les suivantes. L'hippocampe, l'amygdale, le cortex préfrontal médian et le cortex singulaire antérieur. Tout d'abord, l'amygdale. L'amygdale, elle va avoir un volume normal. Ce n'est pas ça son problème. Mais vous l'avez deviné, cette amygdale, quand on regarde son fonctionnement, eh bien, on va voir qu'il y a une hyperactivation de l'amygdale. Et ça explique les souvenirs intrusifs, les flashbacks. Et donc, ça explique complètement ce que j'ai montré dans le schéma de la diapositive précédente, l'hypermnésie des aspects émotionnels de l'événement traumatique. Si je regarde maintenant l'hippocampe, en fait, il va avoir un volume réduit. C'est-à-dire, il va se présenter sous la forme d'une atrophie. Et donc, cette atrophie explique la difficulté que les gens ont à rapporter les détails de l'événement traumatique. On pense aussi, mais c'est encore spéculatif, que ce volume réduit de l'hippocampe serait lié au fait que l'amygdale l'empêche de réellement fonctionner normalement. C'est-à-dire, avec ses messages inhibiteurs, l'amygdale il finit par s'asseoir là, sur le siège, et puis par plus rien faire. Et on sait que plus on stimule une région cérébrale, plus elle va avoir de volume, et moins on la stimule, plus son volume va diminuer. Et le cortex préfrontal médian, qu'est-ce qui devient ? Avec le cortex singulaire antérieur, notre cerveau relationnel. Eh bien, lui, il va avoir et des modifications structurales et des modifications fonctionnelles. Un volume réduit et une hypoactivation. Ça veut dire que lui, il est plus capable de réguler ça, de réguler l'amygdale. Donc, en temps normal, c'est ce qui se passe. On a la capacité de réguler le cerveau limbique. Eh bien, dans l'état de stress post-traumatique, cette capacité est perdue. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je suis en séance avec un patient et que je commence par le travail thérapeutique à approcher cette mémoire traumatique ? Alors, je vous invite à regarder cette ligne et imaginez que moi, en tant que thérapeute, mon curseur, il est plutôt là, dans la fenêtre de la régulation émotionnelle efficace, et que le curseur de mon patient, il va se déplacer sur cette ligne. Et que mon patient, plus il est traumatisé, plus son curseur il va avoir du mal à rester dans cette fenêtre de la régulation émotionnelle efficace. Donc on a vu dans la diapositive précédente, qu'est-ce qui se passe en cas de reviviscence traumatique. Donc on se trouve à cet extrême-là, mais on va voir que le curseur de mon patient, il peut peut-être s'arrêter là un peu, mais il peut aussi aller dans les phénomènes dissociatifs, et donc ça a été abordé ce matin. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de reviviscence traumatique ? Eh bien, c'est ce qu'on a vu. On a une hypoactivation du cortex préfrontal, une hyperactivation de l'amygdale. Ça, on le sait. Mais il faut imaginer que la dissociation, donc on l'a vu, c'est une fragmentation de l'identité, de la conscience corporelle. Il faut imaginer que la dissociation, elle se situe à l'extrême de cette ligne. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si, à un moment donné, en cours de séance, mon patient qui, faute de pouvoir rester là, va commencer à aller là, à un moment donné, ça devient tellement insupportable et intolérable de rester ici qu'il va passer à l'autre extrême. Il ne va pas pouvoir s'arrêter ici, il va passer ici. Et donc, dans les phénomènes dissociatifs, qu'est-ce qu'on voit sur le plan cérébral? Eh bien, c'est comme si ça correspondait à un tel niveau d'anxiété que le cortex préfrontal, finalement, il va inhiber, mais de façon extrême, cette amygdale. Et on va arriver à un état modifié de conscience. Donc on va avoir une hyperactivation de ce cortex qui auparavant était hypoactif et ça va réguler, mais de façon extrême, l'amygdale. Et sur cette diapositive, je vous invite à porter votre attention sur une petite région qui est plutôt là, qui est ici représentée, qui est l'insula, qui est une région qui est impliquée dans la conscience corporelle. Dans la reviviscence traumatique, cette région, elle est hyperactivée. Ça correspond au syndrome d'hyperactivité neurovégétative. Et qu'est-ce qu'on voit dans la dissociation ? Eh bien, on voit qu'il y a une diminution de son activité, ce qui correspond bien à la réalité clinique. Hein. Les patients, ils disent, j'ai plus l'impression, à l'extrême de la dissociation, les patients, ils n'ont plus l'impression d'être dans leur corps, ou en tout cas de le ressentir. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que quand vous ne faites rien, votre cerveau se repose ? Non. Quand on ne fait rien, en fait, notre cerveau travaille. Donc depuis les années 90, on s'intéresse de plus en plus à l'activité cérébrale au repos. Et on sait maintenant que quand un sujet ne fait rien, en fait son esprit vagabonde, ça on le savait déjà, mais qu'un certain nombre de régions cérébrales vont s'activer, et ce de façon en même temps, et ce, donc ça veut dire de façon synchrone. Et ces régions cérébrales constituent entre elles un réseau, ça veut dire qu'elles communiquent entre elles quand elles font ça. Et ce réseau, sur le plan scientifique, ça s'appelle le réseau à l'état de base. Et c'est donc ce qui se passe quand, soi-disant, effectivement, vous ne faites rien. Eh bien, quand vous ne faites rien, ben voilà ce qui se passe. Donc, je suis typiquement en train de décrire ce que certains sont peut-être en train de faire après le repas, c'est-à-dire de rêvasser. Eh bien, c'est la bonne nouvelle de la journée. Ça ne va pas être terrible pour votre apprentissage, mais c'est excellent pour votre santé mentale. Et qu'est-ce qui se passe si on regarde l'activité cérébrale au repos? Alors j'ai oublié de dire une chose, c'est que vous avez vu, il y a des régions antérieures, on retrouve notre cortex préfrontal médian et le cortex singulaire postérieur, et puis des régions postérieures, pariétales et temporales. Alors on sait que les régions antérieures, donc le cortex préfrontal médian, il est impliqué dans le « qui suis-je » et que les régions postérieures sont plutôt impliquées dans le « où suis-je ». Et quand on regarde l'activité cérébrale au repos de patients ayant un état de stress post-traumatique, voilà, vous avez vu la comparaison, la différence elle est flagrante. Le « qui suis-je » a disparu, il reste un peu « d'où suis-je », mais encore c'est beaucoup moins actif que ce qui se passe chez un sujet sain. Donc tout ça pour montrer que, une fois de plus, on constate que ce cortex, ce « qui suis-je » a complètement disparu chez les patients ayant un état de stress post-traumatique et que, maintenant on le sait très bien, c'est vraiment corrélé la diminution de la connectivité du cortex préfrontal médian au sein de ce réseau au repos, elle est vraiment corrélée aux modifications du sentiment de soi chez ces patients-là. Alors, quand un patient vous dit, par exemple, en séance, « Quand je pense à mes enfants, je ressens rien. C'est comme si j'étais coupée de mes émotions. C'est comme si je ressentais comme un blanc. » Ou encore, « Je n'ai pas l'impression d'être une personne, j'ai plutôt l'impression d'être un objet. » Eh bien, vous pouvez parier à coup sûr que son cortex préfrontal médian présente une hypoactivation. On a vu dans la diapositive précédente que le cortex préfrontal médian sous-tend la perception de soi, eh bien on va voir dans cette diapositive qu'il peut aussi agir en observateur conscient de nos propres états intérieurs. Ici, deux groupes. Un groupe de sujets sains et un groupe de patients ayant un état de stress post-traumatique. À ces deux groupes, en fait, on va faire passer un test où il y a deux scénarios. Un scénario positif où les sujets reçoivent de l'affection, et un scénario négatif où ils reçoivent du rejet ou de la critique. Et à toutes les personnes qui passent ce test, dans les deux groupes, on leur demande vraiment de vivre chaque scénario dans le moment présent. Et on les invite à regarder ce qui se passe à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire à ressentir les émotions que ça génère. Donc on va leur demander, est-ce que vous ressentez une émotion? Est-ce que vous avez l'impression d'être coupé de vos émotions? Ou est-ce que, carrément, vous avez l'impression que vos émotions sont comme figées? Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que chez les patients ayant un état de stress post-traumatique, que l'émotion soit positive, enfin, positive ou négative, on a une diminution d'activité du cortex préfrontal médian. Et que cette diminution de l'activité du cortex préfrontal médian, elle est corrélée, c'est-à-dire que plus les patients sont coupés de leurs émotions, plus le cortex préfrontal médian est hypoactif. Et qu'est-ce qu'on voit chez les sujets sains? C'est l'inverse. C'est que plus les personnes sont capables de se porter en observateur conscient de leurs états intérieurs, c'est-à-dire porter attention à ce que génèrent les scénarios, les scénarii, plus leur cortex préfrontal médian est activé. Ce qui veut dire que le cortex préfrontal médian, il joue dans le sentiment de soi, mais aussi dans la capacité à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça, c'est une diapositive pour vous faire souffler. Mais je vais quand même en profiter pour parler un peu. Donc là, on vient de voir toute une série d'études sur l'état de stress post-traumatique. Qu'est-ce qu'on peut dire du psychotraumatisme en dehors de l'état de stress post-traumatique? Parce qu'on sait très bien que toutes les personnes qui vont être exposées à un événement traumatique ne vont pas forcément développer un état de stress post-traumatique. Donc ça pourrait revenir à dire, est-ce que le psychotraumatisme, en dehors de l'état de stress post-traumatique, a un impact sur le cerveau? La réponse est oui. Oui, le trauma a un impact sur le cerveau, qu'on développe un état de stress post-traumatique ou qu'on n'en développe pas. Et que globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les modifications cérébrales chez les gens qui n'ont pas d'état de stress post-traumatique, mais qui ont eu un psychotrauma, et ce d'autant plus s'il est répété ou chronique, ça va avoir un impact sur le cerveau, et à peu près de la même façon. Donc là, sur les diapositives suivantes, on va un peu sortir de l'état de stress post-traumatique et on va se poser d'autres questions. Est-ce que ça fait la même chose de subir de la négligence affective, sévère, que de subir de la maltraitance physique? Non, ça ne fait pas la même chose sur le cerveau. Ça, c'est une étude qui est particulièrement intéressante parce qu'elle a pris des adolescents qui étaient indemnes de tout trouble psychiatrique. Et elle a différencié un groupe d'adolescents qui avaient subi de la négligence affective et un groupe d'adolescents qui avaient subi de la maltraitance physique. Et on a fait les différences entre les deux et voir quelles régions cérébrales étaient les plus atrophiques dans chacun des deux groupes. Dans le groupe négligence affective, en fait, c'est simple, c'est toutes les régions qui sont impliquées dans la conscience de soi et dans la régulation émotionnelle. Et par contre, dans le groupe maltraitance physique, en fait, on va mettre en évidence l'atrophie d'une toute petite région cérébrale dont on a déjà parlé, qui est l'insula. C'est une région cérébrale qui nous permet de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et ça, ça va être une notion importante. C'est que par mécanisme adaptatif, le système neuronal d'un enfant abusé physiquement a la capacité de mettre en place une stratégie qui va viser à le couper de son corps, à ne pas ressentir ce corps qui est brutalisé. Alors on pourrait se demander, et le trauma sexuel, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça a un impact spécifique sur le cerveau? Oui, ça a un impact spécifique sur le cerveau. C'est aussi une étude très intéressante qui concerne 51 femmes qui ont subi de façon répétée, chronique, dans l'enfance, un abus sexuel. Et ces auteurs ont montré que ces femmes avaient une diminution de volume dans cette région cérébrale. Alors cette région cérébrale, en fait, tout ce que je dessine là, au-delà des zones colorées, c'est ce qu'on appelle le cortex somatosensoriel. C'est-à-dire que c'est un cortex, une partie du cerveau, là, qui permet de recevoir toutes les informations provenant de la surface du corps. Et en fait, c'est important aussi de comprendre, c'est qu'à chaque point de ce cortex somatosensoriel correspond une partie du corps. Et ce qu'on sait, c'est que cette partie-là, de ce cortex somatosensoriel, ça représente les organes génitaux. Donc cette étude, elle est magnifique, elle montre trois choses. Premièrement, que le trauma chronique entraîne des modifications cérébrales. Et ces modifications cérébrales, c'est comme si c'était en quelque sorte un mécanisme d'adaptation dans des zones cérébrales, et donc du corps, mais des zones cérébrales qui sont directement visées par l'acte traumatique. Deuxièmement, c'est que la plasticité cérébrale, au-delà de ce mécanisme adaptatif, on peut même aller un peu plus loin, on peut dire que c'est comme un mécanisme protectif qui va avoir pour but de protéger l'enfant en créant une espèce de barrière sensorielle face à l'abus sexuel. Et troisièmement, on peut imaginer que ces femmes qui ont cette diminution de volume dans cette région qui est vraiment, qui représente les organes génitaux, ça puisse expliquer les troubles de la sexualité fréquemment rencontrés chez des femmes ayant eu des situations d'abus sexuels chroniques dans l'enfance. Une autre question. Pensez-vous que c'est la même chose de voir une scène d'horreur quand on est enfant ou quand on est adulte ? Non, c'est pas la même chose. Donc ici, vous avez des cerveaux d'enfants et ici, des cerveaux d'adultes. Et en fait, à ces deux groupes, on fait passer une vidéo où on voit une personne être blessée, mais de façon intentionnelle. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ? Chez les enfants, on va voir une activation des régions cérébrales qu'on a déjà vues, hein, qui sont impliquées dans la conscience de soi, dans la régulation émotionnelle, donc le cerveau limbique et beaucoup même le tronc cérébral, donc le cerveau reptilien. La même scène chez les adultes, complètement différent. Chez les adultes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette partie du cortex préfrontal. Alors, j'ai beaucoup insisté dans la présentation sur le cortex préfrontal médian. Médian, ça veut dire qu'il est plutôt situé là, sur la ligne médiane. Et ça, c'est une partie différente du cortex préfrontal. C'est le cortex préfrontal dorsolatéral. Ça va ? Vous me suivez ? Et ce cortex préfrontal dorsolatéral, il est impliqué dans des mécanismes cognitifs très particuliers qui sont le raisonnement et l'inhibition. En gros, il va contrôler ce que je vois. Il va en gros empêcher que mon cerveau limbique et que mon cerveau reptilien s'activent. Tout ça pour montrer que les processus de régulation émotionnelle sont en devenir chez l'enfant et qu'ils se développent au cours de la maturation cérébrale et que vous comprenez que ce cortex préfrontal, on l'a dit au tout début, il est immature quand on est enfant. Et donc que c'est vraiment en devenir chez l'enfant.
5 minutes, Laurence.
Ok, ça va être dur, mais... Alors, les messages à retenir, donc du coup, je vais aller assez vite. Donc, le psychotrauma a un impact fonctionnel et structural sur le cerveau. Je crois que je vous ai convaincu. En cas de psychotraumatisme, c'est assez évident. Le cortex préfrontal n'a plus la capacité de réguler l'amygdale et le tronc cérébral. Le psychotraumatisme entraîne une altération de la représentation de soi. On est tous d'accord. Et en cas de traumatisme, il faut comprendre que le cerveau, il va essayer de protéger l'individu avec les moyens du bord. Et les moyens du bord pour le cerveau, c'est quoi ? C'est sa plasticité cérébrale. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va modifier des zones cérébrales qui sont directement visées par l'acte traumatique. Mais il va aussi déconnecter l'individu de sa vie émotionnelle intérieure. Pour en dire plus, mais je vais me retenir. Et donc par la troisième partie, quels sont les mécanismes neuronaux qui sous-tendent la relation patient-thérapeute. Alors, des neurones miroirs à la théorie de l'esprit, rassurez-vous, je m'explique, je vais essayer de le faire clair et rapide. Donc, les neurones miroirs, vous les connaissez tous, hein, c'est des neurones, c'est une catégorie de neurones qui sont activés quand je fais une action ou quand je vois une personne faire la même action. On sait maintenant que les neurones miroirs jouent un rôle clé dans l'empathie. Donc, et les neurones miroirs, dans l'empathie, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont faire que, à l'intérieur de moi, ça va créer l'état émotionnel d'autrui. C'est-à-dire que ça va créer une sorte de contagion émotionnelle. C'est-à-dire que grâce à cette contagion émotionnelle, l'émotion de l'autre devient mon émotion. Si on en restait là, la vie serait impossible. Donc, il se passe autre chose. Il se passe qu'en fait, de cette contagion émotionnelle va émerger une représentation de l'état émotionnel de l'autre. Et ça, c'est une capacité cérébrale. Le nom scientifique de cette capacité cérébrale, c'est la théorie de l'esprit. Contrairement à ce que son nom l'indique, ce n'est pas une théorie. Ça pourrait être une théorie de la théorie, mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Ce n'est pas une théorie, c'est vraiment une capacité cérébrale que nous avons à attribuer à l'autre un état émotionnel, une pensée, une attention. Et on fait ça toute la journée. Il faut savoir aussi que c'est une capacité qui n'est absolument pas mature chez l'enfant, et vous aurez compris, c'est médié par le cortex préfrontal qui n'est pas du tout mature. Donc l'enfant, avant 4-5 ans, il n'est pas du tout capable de faire ça. Alors quels sont les mécanismes cérébraux ou les processus qui sous-tendent l'empathie ? Donc je suis thérapeute, je suis en séance avec mon patient. Mon patient pleure, donc je vois qu'il est triste. Moi-même, je vais ressentir de la tristesse grâce à mes neurones miroirs. Immédiatement, je sais que cette tristesse est la sienne. C'est là où on voit, je fais une petite aparté, l'intérêt pour le thérapeute d'avoir déjà travaillé sur son système. Parce que entre la contagion émotionnelle et la théorie de l'esprit, c'est mon émotion, ouais, c'est la sienne, mais en fait c'est peut-être un peu la mienne. Donc... Et puis on passe à ce qui fait vraiment la qualité de notre métier, c'est je décide d'être concerné par cette tristesse. Et c'est l'acmé du processus empathique, c'est l'engagement du thérapeute dans cette relation. Puis encore un peu de temps. Ce qu'on sait, c'est par exemple dans l'autisme ou dans certaines pathologies psychiatriques, comme la schizophrénie, on a des troubles de théorie de l'esprit. Donc les gens ont des difficultés à attribuer des états mentaux, des états émotionnels, des pensées, des intentions aux autres. On sait aussi par exemple que si on injecte en intranasal de l'ocytocine, hormone de l'attachement, on va améliorer ces capacités-là chez les malades. J'en dis pas plus. Alors, est-ce qu'on peut être dans l'empathie en tant que thérapeute et penser à autre chose ? Ben, on peut être convaincu du contraire, mais vous allez voir, la réponse, elle est immédiate. Sur le plan cérébral, non. Alors ça, c'est une étude où on met des gens dans une IRM et on leur fait défiler devant eux des images, des photos de sujets tristes, joyeux, anxieux. Et dans deux conditions, on leur demande de regarder ça dans deux conditions. La première, c'est de se sentir concerné par les photos et ce qui émerge des photos. Et la deuxième, on leur demande juste de regarder et en même temps d'apprendre une série de chiffres. Donc vous voyez que quand on est concerné par les photos, qu'est-ce qu'on engage ? Bah, tout ce qu'on vient de dire. Le cortex préfrontal médian, mon amygdale. Donc ça, c'est vraiment des régions cérébrales qui sont impliquées dans le processus empathique. Par contre, si je pense à autre chose ou si je ne suis pas en gros vraiment engagée dans la relation, ben, vous voyez que ces structures-là, elles se désengagent. Donc, on sera d'autant plus dans l'empathie qu'on va vraiment s'engager dans cette relation-là et qu'on ne va pas commencer à penser à notre liste de courses. Donc, vous l'avez compris, le psychotraumatisme se caractérise par le fait que ces trois dimensions ne communiquent plus entre elles. L'objectif de toute thérapie, ça va de soi, ça va être de faire communiquer ces trois dimensions entre elles. Alors pourquoi ça touche les trois dimensions ? C'est parce que la mémoire traumatique, elle affecte le corps, les affects et le cognitif. Donc ça, c'est l'objectif de toute thérapie. Et en fait, qu'est-ce que je vais utiliser en thérapie, notamment en IFS ? Je parle de ce que je connais. On va essayer de se situer dans cette fenêtre de la régulation émotionnelle efficace. Il y a beaucoup de modèles de psychothérapie qui essayent de se situer dans cette fenêtre parce qu'on l'a vu, c'est aussi la fenêtre de la conscience de soi. Et c'est donc au travers de cette fenêtre de la régulation émotionnelle efficace, de la conscience de soi, que je vais essayer d'aller faire communiquer entre elles ces trois dimensions. Donc les limites et les dangers de certaines approches, pour moi c'est assez simple, ce serait de rentrer dans chacune de ces dimensions sans la conscience de soi, c'est-à-dire sans s'engager réellement dans la relation, sans engager la conscience de l'autre dans ce travail thérapeutique et sans considérer que la mémoire traumatique, elle affecte ces trois dimensions. Voilà. Et que finalement, peu importe la méthode, peu importe sa façon d'accéder à la mémoire traumatique, que ce soit le corps, les émotions, le cognitif, ce qui compte, vous l'avez compris, c'est de s'engager dans la relation. C'est que le thérapeute le fasse avec sa propre conscience et celle de l'autre, et c'est de considérer ces trois dimensions. Et je vais terminer par la dernière diapositive. La relation singulière entre un patient et un thérapeute naît bien de cette interface entre un cerveau qui souffre et un cerveau qui soigne. Et plus mon patient est traumatisé, plus son cerveau va ressembler à ça. Deuxièmement, pour moi, une des grandes caractéristiques des thérapies dites humanistes, c'est la possibilité offerte au thérapeute de s'engager dans cette relation, qui constitue, à mon avis, une sorte d'invitation pour le patient à être vu pour ce qu'il est, sans jugement. Et cet engagement, il porte des noms. Il y a des mots pour le qualifier, je veux dire. C'est la présence, c'est l'empathie, c'est la sécurité, c'est la compassion, et il y en a bien d'autres. Et troisièmement, ces qualités de la relation thérapeutique, de mon engagement dans la relation thérapeutique, elles vont émerger quand moi, thérapeute, je vais mobiliser ce qui fait que mon cerveau est un cerveau relationnel, c'est-à-dire prompte à comprendre mes propres états intérieurs, prompte à comprendre ceux des autres et à me sentir concernée par la souffrance de l'autre, en gros, en mobilisant, vous l'avez compris au travers de cette présentation, mon cortex préfrontal. Et c'est avec ce cerveau relationnel que je vais donc m'engager dans cette relation et que je vais essayer de guérir, non, de soigner, on va dire, de soigner l'autre. Et c'est ça qui va consister en une sorte d'invitation chez l'autre à retrouver ce qui suis-je. Et c'est ça qui va l'aider à être l'acteur de sa propre guérison. Je vous remercie de votre attention. Pas de questions.
Merci. Merci beaucoup, Laurent. J'avais pas le cœur de la stopper, même si on a débordé de quelques minutes. Vraiment, c'était le mot de la fin était formidable. Et merci d'avoir rappelé que notre métier s'inscrit d'abord dans une relation. Nous, psychothérapeutes humanistes, ça nous parle. La relation thérapeutique est fondamentale. Il n'y a qu'une chose quand même qui, j'espère, sera relevée pendant la table ronde pour mettre en évidence justement les visions communes ou les disparités. C'est est-ce que l'entrée par l'émotion quand elle est cathartique, c'est-à-dire quand on fait crier la colère, j'espère que tu m'entends, Laurence, ne papote pas avec ton voisin. Bon, il va y avoir un débat intéressant. Donc justement, on reviendra sur cette histoire de porte d'entrée. Est-ce que vraiment, avec tous les patients, on peut avoir n'importe quelle porte d'entrée ou est-ce qu'il ne faut pas commencer par le sensorimoteur? Voilà. Eh bien, le débat est ouvert. Donc, revenez dans une demi-heure, c'est-à-dire on a un quart d'heure de retard. Donc, au lieu de 16h... Oui, on va essayer de raccourcir un petit peu la pause. Revenez tous à moins 20. 5h moins 20.
Là, tu as deux tables ici, à la place de...